Gloire à Dieu. Ce matin, pendant quelques instants, nous allons, frères et sœurs, nous entretenir ensemble au sujet d'un homme dont la parole de Dieu ne nous dit pas grand-chose. C'est seulement dans ce chapitre, dans le texte que nous avons lu, qu'il est mention de cet homme-là. La seule chose que l'on peut découvrir, parce qu'il y a toutes sortes de moyens qui nous permettent de découvrir cela, c'est la signification de son nom. Son nom signifie « celui qui rassemble ». Non pas « qui rassemble autour de lui », mais « qui rassemble en lui ». C'est-à-dire un homme qui a réussi à rassembler un trésor dans son propre cœur de richesses spirituelles, qu'il a obtenu par une relation qu'il avait très certainement précieuse avec son propre père, dont le nom est cité aussi. Il s'appelle Jacquet, et Jacquet signifie « pieux ». Et il faut que nous reconnaissions que quand on est en relation avec un homme pieux, une femme pieuse, alors il y a toujours des choses précieuses que l'on peut retirer et que l'on peut aussi serrer précieusement dans le cœur. Un peu comme quand on serre la parole de Dieu dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. La Bible ne nous donne donc aucune autre indication sur lui. Et d'ailleurs, elle ne nous dit pas non plus grand-chose au sujet de ceux auxquels il s'adresse. Il s'adresse à Itiel, dont la signification veut dire « Dieu est avec moi » et Ucal, dont la signification est « Je suis consumé, je suis vraiment brisé ». Et voyez-vous, ce n'est pas dans un sens négatif qu'il nous faut prendre cela, mais plutôt dans le sens qui est exprimé par l'apôtre Paul dans un passage que vous devez certainement connaître, et où il dit ceci, « Moi, j'ai été crucifié avec Christ ». Ça veut dire qu'il a trouvé la fin de lui-même, de son « moi », de ce qu'il croyait être, de l'homme religieux qu'il était. Tout cela s'est épuisé, s'est brisé, s'est fini. Mais il a pu ajouter, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quant au premier personnage dont la signification est « Dieu est avec moi », eh bien, nous rappelle Emmanuel, celui que nous avons honoré ce matin, celui que nous avons exalté, que nous avons glorifié, et dont le nom signifie « Dieu avec nous ». C'est un grand privilège que nous soyons rassemblés, mais non pas comme un club dans le monde, comme il y a tellement de groupes dans le monde qui peuvent se rassembler, mais nous sommes rassemblés autour de la personne glorieuse du Seigneur. Nous sommes cachés en Dieu. Dieu est là, au milieu de nous. Et nous savons qu'il est écrit que toute écriture est utile pour notre exhortation, pour notre édification. Et c'est la raison pour laquelle même des passages parfois aussi complexes que celui que nous avons choisi ce matin peuvent contenir un trésor, et que le Seigneur nous accorde la grâce ce matin de pouvoir saisir ce qu'il nous dit au travers de ce texte. Alors, bien sûr, je vais en convenir avec vous. Il y a quelque chose d'étonnant, parce que cet homme, eh bien, parle de la part de Dieu. Si ce qu'il a dit se trouve consigné dans l'Écriture, c'est qu'il a été inspiré du Saint-Esprit. Et cet homme qui parle de la part de Dieu, qui annonce même les oracles de Dieu, parce que dans le titre, il est dit « sentence prononcée par cet homme ». Dans quelques-unes de vos Bibles qui sont d'une autre traduction, il est peut-être écrit « oracle de Dieu ». Et dans l'épître de Pierre, au chapitre 4, la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 11, il est dit, si quelqu'un parle, eh bien que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Nous ne pouvons pas douter que cet homme, donc, s'est exprimé comme annonçant les oracles de Dieu. Ce qui est surprenant, c'est ce qu'il dit à son propre sujet. Enfin, je dis surprenant, mais dans un moment, je dirais la véritable raison pour laquelle il peut s'exprimer de cette manière-là. Écoutez-le. « Certes, je suis plus stupide que personne. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme, c'est-à-dire qu'il est bête. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. » Réfléchissons un instant ensemble. Imaginez avec moi, frères et sœurs, un patron, un chef d'entreprise qui reçoit un futur ouvrier, un futur fonctionnaire, je ne sais pas, mais qui viendrait avec un tel curriculum vitae, en présentant son CV et en disant, vous savez monsieur, je suis stupide, je n'ai pas d'intelligence, je n'ai pas appris la sagesse, en fin de compte, je suis bête. Que pensez-vous que le patron dirait? Eh bien, il lui dirait, qu'est-ce que vous êtes venu faire alors? Et il ne le recevrait pas. Mais imaginez maintenant que ce soit un autre personnage, un pasteur, qui se présente devant une église, devant une assemblée, et dont la première déclaration qu'il fait, c'est celle-ci. Vous savez, frères et sœurs, je suis stupide. Je n'ai pas d'intelligence. Je suis sans aucune sagesse. Je ne connais pas la science des saints. Je sais que toute l'Église tremblerait et dirait, où allons-nous aller avec un tel personnage qui a de telles qualités, tellement misérables? Je crois que nous serions tous dans la crainte. Cependant, je dois dire ceci. C'est précisément parce que cet homme est le porte-voix de l'Éternel et qu'il s'adresse à des êtres dont nous avons donné déjà la signification de leur nom, qu'il ne s'attribue aucun mérite personnel. Il sait très bien que par lui-même, il n'est rien, que celui qu'il sert et dont il est le porte-voix, lui est tout. Et il exprime, je dirais sans crainte, parce qu'il n'a pas honte de ce qu'il est devant ses semblables. D'ailleurs, il va leur faire toucher du doigt qu'au niveau de la sagesse ou de l'intelligence, ils ne sont pas meilleurs que lui. Mais lui s'appuie non pas sur ce qu'il est, mais il s'appuie sur ce qu'est Dieu. Et combien, dans son jugement, Dieu est grand, Dieu est précieux et Dieu est formidable. Alors, comment est-ce qu'il va faire toucher du doigt aux autres qu'ils ne savent pas plus que lui? Bien, il utilise un peu, je dirais, la méthode de Job, dont notre frère, d'ailleurs, tout à l'heure, a lu un passage de son livre concernant un de ses amis. Et notre frère a souligné, à juste titre d'ailleurs, que même si ses amis n'ont pas été tout à fait à la hauteur vis-à-vis de Job, ils avaient quand même aussi, parfois, des paroles qui pouvaient avoir l'apparence de la sagesse. Et quand Job, dans son livre, a lutté pendant un temps avec Dieu, parce que malgré ce qu'il était, et malgré son extrême souffrance, malgré le fait qu'il essayait de se justifier en disant à ses amis, « Non, il n'y a rien de caché dans mon cœur. Si je suis atteint comme cela dans mon corps, ce n'est pas que je cache une transgression. Non !» Mais à un moment donné, il a fallu que Dieu le brise. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce que Dieu lui a posé toutes sortes de questions pour l'amener à comprendre qu'il ne pouvait pas répondre à certaines choses, parce qu'il était dépassé par ces choses-là. Alors, il lui a parlé de la création, puis avec un certain humour, un humour divin, pardonnez-moi d'utiliser cette expression. C'est comme s'il lui disait, Job, tu sais, quand j'ai créé la terre, quand j'ai créé toutes ces choses-là, heureusement que tu étais là pour me donner un coup de main. C'est pas dit comme ça, hein. Mais c'est ce qui lui fait entendre. Et au fur et à mesure que Dieu lui pose des questions, Job baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête, parce qu'il est dépassé par la grandeur, la puissance, la gloire de Dieu. Et à un moment donné, il n'en peut plus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me repens. Et il s'humilie dans la cendre. Et sa bouche est fermée. Il ne peut plus parler, parce qu'il a la révélation de qui est Dieu. Et d'un seul coup, lui s'aperçoit que malgré sa défense contre ses accusations, eh bien effectivement, il n'est rien, il est un petit grain de sable devant Dieu. Et il reconnaît cela. Cependant, Job, il lui a fallu toute une expérience de souffrance longue, des mois de grandes difficultés, pour en arriver à comprendre que finalement Dieu est tout. Et que lui, il n'est rien. Tandis que Agur, lui, il a compris d'emblée, tout de suite, il a saisi cela, et il est donc dans une totale humilité pour parler aux autres. Et à son tour, alors, il pose la question à ceux à qui il s'adresse. Qui est monté aux cieux? Qui est descendu? On peut expliquer certaines choses de la création, mais il y a des qui auxquels on ne peut pas répondre. Et il continue, il dit, qui a recueilli le vent dans ses mains? Alors voilà une chose qui nous dépasse, n'est-ce pas? Et nous, nous savons que le seul qui a pu faire cela, qui a tout pouvoir, qui est infiniment au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer, c'est Dieu. Il continue, il dit, qui a serré les os dans son vêtement? J'imagine que Ucal et Itiel, auxquels il s'adresse, sont là en train de se poser des questions. Que devons-nous répondre? Est-ce que nous avons une réponse à cela? Et ils découvrent leur propre stupidité, leur propre ignorance. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et là, alors, c'est formidable. Regardez comment, déjà par avance, Dieu annonçait quelque chose de formidable. Quel est le nom de son fils? Nous, nous avons le privilège de connaître le nom de son fils, qui est Jésus. Juste, j'ouvre une parenthèse. Quand vous parlez avec quelqu'un d'une autre religion, par exemple, mais je vais faire très court, car je ne veux stigmatiser aucun système religieux, Dieu seul est juge. Et particulièrement à ceux qui disent, nous aussi nous croyons en Dieu, mais nous n'acceptons pas que Dieu est un fils. Rappelez-leur que dans l'Ancien Testament, cela est annoncé. Dieu a un fils. Et il nous a tellement aimés qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais mettez-vous à la place de ces gens-là. Et il insiste, en s'adressant à chacun d'eux, « Le sais-tu ?» Et d'un seul coup, alors, il apporte, regardez, malgré qu'ils disent qu'il est stupide, combien il est rempli de la sagesse divine. Et il dit, « Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire au travers de cela? Eh bien, il est en train de dire, je ne peux pas expliquer certaines choses de la création, tout me dépasse. Je ne peux pas expliquer Dieu, je ne peux pas le comprendre. Il y a toutes sortes de questions que nous pouvons nous poser et où il n'y a pas de réponse vraiment précise. Mais tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, c'est au travers de sa parole. C'est la raison pour laquelle il faut la foi pour s'approcher de Dieu et découvrir tout ce qu'il est et tout ce qu'il est capable de faire. Et ça, c'est notre privilège. Dites-moi, mes frères et sœurs, moi j'ai envie de dire, sans offenser personne, Nous ne savons pas grand-chose, pas vrai. Mais nous savons une chose, c'est que dans sa grâce, il nous a tellement aimés qu'il a fait de nous ses enfants. Ça me rappelle ce cantique que nous chantions quelquefois, autrefois. Je ne sais dans sa grâce, je ne sais, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Mais le cœur disait, je sais qu'il m'a sauvé. Et ça, nous le savons à cause de quoi ? Parce que nous avons placé notre confiance dans la parole de Dieu. Et en fait, la véritable sagesse, c'est quoi ? La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, eh bien, il nous est présenté la véritable sagesse, sagesse personnifiée, sagesse qui est une personne. Car dans ce chapitre 8 du livre des Proverbes, où il est question de la sagesse, on s'adresse à elle comme si c'était une véritable personne. Et je voudrais rappeler un cantique que nous chantions aussi et que j'espère nous continuons à chanter, qui dit « Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. » C'est la raison pour laquelle tout véritable enfant de Dieu doit être dépendant du Seigneur. Nous ne pouvons pas, dans une indépendance vis-à-vis de Dieu, sous prétexte que nous connaissons certains principes de la philosophie, que nous connaissons certains principes de la psychologie, que nous pouvons, en fin de compte, mettre de côté l'Écriture, parce que aujourd'hui, finalement, l'Écriture serait dépassée et que nous avons d'autres choses à voir, que notre génération a besoin de quelque chose d'autre. Eh bien, je vais vous dire, la vraie sagesse, elle proclame que la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Jésus a dit, tout passera, mais ma parole, elle demeure éternellement. Alors, c'est vrai que nous avons besoin d'apprendre, au travers de certaines expériences qui parfois sont amères, sont difficiles à vivre, au travers de certaines circonstances particulièrement dures, nous avons besoin de progresser dans cette direction. Je sais que ce n'est pas courant d'entendre parler comme cela, parce qu'aujourd'hui, on essaie d'aller toujours dans le sens de l'approbation de soi, de la satisfaction de soi, de la personne qui est toujours mieux. Mais vous voyez, un véritable chrétien, lui, plus il avance, plus il découvre sa nullité et plus il s'aperçoit combien Dieu est grand. Un autre personnage a fait cette découverte. C'est Asaph. Et je sais que vous connaissez tous le fameux psaume 73, où cet homme s'est exprimé en ces termes. Et d'ailleurs, il connaît un moment de révolte, un moment où il ne comprend pas Dieu. Et il dit très ouvertement, il y a quelque chose qui me révolte. Il parle à Dieu et il dit, comment ça se fait ? Moi, j'ai lavé mes mains dans l'innocence et tous les jours, je suis frappé. Probablement était-il atteint d'une maladie, je ne sais pas, en tous les cas de quelque chose d'affligeant. Et il dit, je regarde autour de moi et je vois les gens qui sont enflés d'orgueil. Eh bien, pour eux, tout leur réussit, leur corps est chargé d'embonpoint, tout va bien pour eux. Alors, Seigneur, il y a une injustice, je ne comprends pas pourquoi eux, tout va bien et moi, eh bien, tout va mal. Et Dieu le fait entrer dans ses sanctuaires. Et il exprime cela dans le psaume 73. Et il dit, quand je suis entré dans les sanctuaires. Alors là, il a découvert quelque chose dont nous avons déjà eu l'occasion d'autrefois de parler. Et Dieu l'a mis en face d'une éternité de félicité quand il va terminer sa course ici-bas sur la terre. Et il parle des méchants dont il avait de l'envie à leur égard, et il dit, et eux, je vais les placer sur une pente glissante, ils vont tomber, ne se relèveront plus, où vont-ils aller? Et là, ils découvrent, ben, ils seront perdus. Alors, mets en balance, une éternité de félicité. Et sur l'autre plateau de la balance, juste quelques années de souffrance. Et là, il se tape le front, se tape sur le front, et il dit que je suis stupide, insensé. Mais il a fallu qu'il passe par cette expérience. Lui, là, Agur, il l'a saisi, je dirais, dès sa plus tendre enfance. Il a réalisé cela. On ne découvre pas. En tous les cas, la Bible ne nous parle pas du chemin qu'il a amené jusque-là. Mais pour lui, c'est évident, Dieu est tout. Alors maintenant, il va tirer certaines sentences. Mais il va en même temps réclamer quelque chose pour lui. Et les deux choses qu'il réclame, elles sont tellement importantes. Je découvre là quelque chose qui devrait être notre prière de tous les jours. Il dit simplement ceci. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, ça en tous les cas. Je veux simplement, en passant, vous dire que c'est triste de voir quelquefois certains serviteurs de Dieu ajouter à la parole de Dieu des principes de psychologie. Parce que quand nous faisons cela, eh bien, nous ajoutons à ce que Dieu a dit et nous faisons une grave erreur. Mais je ne vais pas aller plus loin sur ce thème-là, on pourrait y revenir une autre fois. En tous les cas, il dit, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Parce que ce que l'on ajoute à la parole de Dieu sous prétention que nous savons beaucoup de choses, eh bien, en réalité, ce n'est que du mensonge. Ce n'est rien qui puisse être accepté comme une parole de vie et édifiante. Mais voilà sa prière. Il dit, ne me refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Deux choses qui doivent nous caractériser. Peut-être que certains d'entre vous, à la place de fausseté, avait tout simplement vanité. Mais c'est exactement la même chose. Éloigne de moi la vanité. Éloigne de moi aussi la parole mensongère. Aucun chrétien, aucun véritable enfant de Dieu ne devrait jamais non plus avoir cette tendance à s'élever et à être vaniteux. L'orgueil est une chose qui est en abomination aux yeux de l'Éternel. Et je dois dire que l'on a réussi à trouver un moyen par lequel on s'esquive et on dit il y a un orgueil spirituel. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a de spirituel dans l'orgueil. Parce que la parole de Dieu, elle condamne d'une façon très nette, très franche, toute forme d'orgueil et la parole mensongère. Ça veut dire que ce qui doit sortir de notre bouche, c'est quoi? Vous connaissez ce verset de l'Écriture qui dit « Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras comme ma bouche. » J'ai entendu un frère ce matin prier, je ne sais pas lequel, j'ai entendu sa voix. Mais en tous les cas, j'ai bien entendu ce qu'il disait quand il affirmait « Nous nous approchons de toi, non pas avec les téraphimes, non pas avec des idoles cachées dans notre cœur. Non, on s'approche de lui au nom du Seigneur Jésus. » Ça veut dire « revêtu de sa justice ». En étant conscient que nous ne sommes que souillures. Et finalement, quand on accepte que la parole de Dieu nous purifie, nous sanctifie, que l'action du Saint-Esprit, au travers de sa parole, soit réelle dans notre cœur et dans notre vie, et que tout ce qui est superficiel, eh bien, est mis de côté, alors nous sommes comme la bouche de Dieu. Et il n'y a pas de place pour le mensonge. Vous savez, le mensonge, c'est tellement subtil. Et il faut vraiment que le Seigneur puisse nous exaucer quand nous prions dans ce sens, afin que nous soyons vrais, authentiques, dans notre comportement, dans le culte, lorsque nous chantons des cantiques, lorsque nous adorons, lorsque, comme pour moi maintenant, nous prêchons, lorsque nous exerçons un don, lorsque nous avons à ouvrir la bouche et que nous sommes au service de Dieu, il faut que nous soyons authentiques. Que rien de superficiel puisse vraiment empêcher une action profonde, puissante de l'Esprit de Dieu dans le fond de notre cœur. Et puis après, alors tout naturellement, eh bien, il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Et il explique, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ce qui serait une forme d'indépendance vis-à-vis de Dieu, ou que, justement, dans la pauvreté, je ne dérobe, encore une autre forme d'indépendance vis-à-vis de Dieu, parce que je vais transgresser la loi, c'est-à-dire je vais être contre toi. La transgression de la loi, c'est le péché. Et en dérobant pour me sortir de la pauvreté, eh bien, je serai en dehors du cadre de ta volonté. Alors, toi, tu connais mon véritable besoin. Nous avons du mal à juger, parce que nous voulons toujours plus que ce dont nous avons véritablement besoin, et nous nous trompons, ça s'appelle parfois la convoitise, et par ailleurs, eh bien, il est clair que dans la pauvreté, dans la misère, mais je voudrais dire, vous vous rappelez d'une parole, je crois, de David, qui dit, j'ai vieilli, j'ai passé du temps, maintenant je suis devenu un homme vieux, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. C'est formidable, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu peut faire cela aussi pour nous. Il peut nous délivrer de ces deux extrêmes, pour que nous ne tombions pas dans l'indépendance vis-à-vis de lui, mais que toujours nous soyons dépendants de lui pour les besoins quotidiens de tous les jours. N'est-il pas Jéhovah Jiré, celui dont la parole de Dieu déclare « Il pourvoira » Et il y a peut-être quelqu'un ici qui peut se poser des questions pour demain, pour le lendemain, et se dire, comment vais-je faire? L'Éternel pourvoira. L'Éternel est capable de nous étonner et de faire même à ce niveau-là, au-delà même de ce que nous osons demander. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu juste. Et après avoir fait cette prière pour lui, eh bien, il dévoile certaines choses. C'est curieux, parce que je trouve qu'il a une clairvoyance formidable. Je dirais, c'est comme s'il vivait au milieu de nous, à l'heure actuelle, et au sein de notre génération. Il parle de son époque comme nous pourrions parler de notre génération à l'heure actuelle. C'est là ce qui nous fait dire, vraiment, la parole de Dieu, elle est vivante, elle ne passe pas, elle a toujours la même valeur. Et regardez ce qu'il dit. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. C'est assez curieusement exprimé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu ce que Paul lui-même, peut-être à la fois appuyé sur ce passage et inspiré par le Saint-Esprit, a dit. Dans les derniers temps, qu'est-ce qui se passe? au sein de notre génération. Eh bien, les hommes et les femmes seront dépourvus d'affection naturelle. Et qu'est-ce qui arrive ? Ben, vous avez les enfants qui se révoltent contre les parents, et d'ailleurs contre toute forme d'autorité. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas ? Et déjà, ici, Agur le constatait à son époque, et il voyait comment il y avait dans le cœur cette semence du péché qui avait été infiltrée par la puissance du diable, et comment cela était déjà à l'œuvre. Il maudit son père et il ne bénit point sa mère. Et pourtant, ça, c'est tout à fait à l'opposé de ce commandement précieux qui se trouve dans la parole de Dieu. Honore ton père et honore ta mère. Et comment est-ce que cela est possible? Si ce n'est encore une fois par le Saint-Esprit qui applique la parole de Dieu à notre cœur et qui nous permet d'obéir. Et il dit, et il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Alors ça, c'est une pleine contradiction. Elle se croit pure, cette race, mais elle n'est pas lavée de sa souillure. Bon, il y a plusieurs choses que l'on pourrait dire ici. C'est vrai que nous découvrons dans le Nouveau Testament que se vantant d'être sage, les gens sont devenus fous. Et on en a un témoignage devant nos yeux quotidien au travers du comportement des hommes et des femmes. Mais attention, je m'adresse aussi à l'Église. Il y a une race qui se croit pure. Vous savez, ce sont les légalistes qui s'appuient non pas sur la justice de Christ, mais sur leur propre justice, en mettant en avance leur conduite, leur comportement, comme s'ils étaient supérieurs, écrasant aussi les autres de la même manière que le faisaient les pharisiens de l'époque du Seigneur. Souvenez-vous de cet homme qui est dévoilé par une parabole du Seigneur quand il dit, il était là au premier rang, et il disait, je te loue, ô Dieu, que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et il désignait le pauvre publicain au fond de la salle. Quand je prêche là-dessus, je tremble toujours, parce qu'il y en a devant qui peuvent être confus et derrière qui peuvent se glorifier en disant « Ah, les premières places, c'est devant, c'est réservé aux meilleurs. » Ben non. Chez nous, vous avez remarqué, je me mets toujours à la première place. Donc chez nous, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de strapontin au fond et les fauteuils devant. On est tous égaux. Une chose est certaine, c'est que notre justice, elle ne vient pas des efforts de notre volonté, même si notre volonté, elle déploie considérablement d'efforts qui sont dans le bon sens. Parce que voyez-vous, personne ne peut être purifié de son péché par le moyen de ses efforts personnels. C'est la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit qui crée le vouloir et le faire, et qui nous a permis de saisir qu'en Jésus-Christ, eh bien, nous n'avons aucune crainte pour nous approcher de Dieu, parce que ce n'est pas au nom de nos mérites, mais au nom de Jésus que nous nous approchons de lui. Et il dévoile là quoi ? Le pharisaïsme. Il dévoile là l'orgueil spirituel dont je parlais tout à l'heure, ce qui est tellement déplorable, qui divise tant d'églises. Une fois, j'ai déjà partagé avec vous que les églises oscillent entre ces deux extrêmes. Les légalistes, moi je suis le meilleur, et les autres qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui, sous prétexte qu'ils sont sous la grâce, se permettent de vivre n'importe comment. Non, le juste milieu, c'est de vivre caché en Jésus-Christ. Et là, eh bien, nous sommes vraiment dans le plan de Dieu. Et là, eh bien, il dévoile cela et il continue en disant, et ça c'est une chose qui est également en rapport avec ce que nous avons déjà souligné, une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Vous savez, les prétentieux, ceux qui savent tout, ceux qui croient être les meilleurs, au-dessus de tout, sont ici stigmatisés. Vous savez, heureusement, que le Seigneur nous vient en aide. Il y a bien des choses que je ne sais pas, que je ne peux pas, et pour lesquelles je suis obligé de faire, Seigneur, toi, heureusement, tu sais et tu peux. Et quand on se confie dans le Seigneur, même si l'on croit, parce que j'ai entendu cela, que c'est une forme de parrainage de dire c'est lui qui va faire tout. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Quand on dit c'est le Seigneur qui doit faire, c'est parce que c'est sa force qui agit au travers de nous. Et c'est lui qu'il fait au travers de nous quand nous nous sommes abandonnés et que nous avons appris à séparer, comme je l'ai déjà dit, ce qui est vil de ce qui est précieux. Je termine, non pas mon message, j'ai encore quelque chose à ajouter, mais ces points-là qui sont soulevés par Agur en disant il y a une autre race qui a des mâchoires comme des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. C'est-à-dire, d'un côté les prétentieux, d'autre côté ceux qui imposent. Vous voyez, ceux qui sont sans pitié pour les personnes faibles, pour les personnes qui sont sans défense. On est en train de voir au sein de notre génération ces choses se manifester. Où il y avait, vous savez, il y a d'un côté ceux pour qui, je dirais, on accorde tous les droits, et puis les autres qui sont écrasés, écrasés. Heureusement que c'est pas comme ça avec le Seigneur, hein. Et même Jacques a été obligé, dans son épître, de faire une rectification dans l'église à la tête de laquelle il était, parce qu'il s'était aperçu que justement, il y avait ce principe qui était mis un peu en évidence. Toi là, riche, toi qui as de l'importance, toi peut-être qui as une certaine profession distinguée dans le monde, dans la société, viens, approche-toi, assieds-toi sur le siège. Toi, misérable, assieds-toi là, sur le repose-pied. Voyez, c'est drôle que Jacques était obligé de parler comme ça à une église. Mes frères et sœurs, nous sommes tous logés à la même enseigne. Et je peux dire ici, aujourd'hui, le Seigneur nous aime tous d'un amour inaltérable, d'un amour éternel, et il a pour tous, le plus petit comme le plus grand. Ça aussi, je l'ai entendu dans la prière. Que le Seigneur bénisse, disait quelqu'un dans sa prière avant ce culte, du plus petit jusqu'au plus grand, sans exception. Il a une parole pour tous. Dieu ne fait pas de différence. Alors n'en faisons pas. Et puis, simplement, marchons comme il nous l'indique au travers de sa parole. Alors, j'en viens maintenant à cette deuxième lecture. Il y a des questions qui sont posées par la Bible qui entraînent, je dirais, une réponse par elle-même. Parce que, imaginez, voyez, Jacques en train de poser cette question. Il dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui nous pose la question. Alors, je le répète. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Voyons, qui c'est qui va se lever? Michel. Ah non? Pas plus que toi, Michel. Il y en a des Michel dans cette salle. Qui va se lever? Fred? Non plus. Personne n'ose, n'est-ce pas? Imaginez que cette question soit posée à une convention de pasteurs. Et la question est là. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Je vais regarder à droite, à gauche, pour voir qui c'est qui va se lever et répondre. Qui va répondre? J'imagine maintenant qu'on va poser cette question à un corps professoral d'une faculté de théologie. Vous vous rendez compte, là? C'est pas n'importe qui, c'est le professeur qui enseigne la théologie aux autres. Qui d'entre vous est sage et intelligent? Elle est troublante, cette question. Mais ce serait encore plus troublant de voir quelqu'un se lever ou lever la main et dire « Moi, je suis sage et intelligent. Moi, je peux répondre à votre question. Moi, je remplis vraiment les conditions. » Nous trouverions tous, n'est-ce pas, combien cela est ridicule. Alors, cela nous amène à bien réfléchir au sujet de ce qu'est la sagesse, comme la parole de Dieu nous le présente. Et Jacques répond vraiment d'une façon admirable. Ici, il dit simplement ceci: « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » C'est-à-dire, si tu crois être sage, mais qu'en même temps, il y a ces choses-là qu'il souligne au travers de ce verset, eh bien, tu te trompes toi-même sur ton propre compte. Tu es à côté de la plaque. Tu ne remplis pas les conditions. Et il dit, si il y a cela, eh bien, c'est à ce moment-là que nous manifestons une sagesse qui a trois caractéristiques: terrestre, charnelle et diabolique. Ce sont des termes forts quand même. Terrestre, ça veut dire qu'une personne peut se croire au-dessus des autres, infiniment sage, mais elle n'est préoccupée que par les choses d'ici-bas, les choses de la terre. Puis, il y a justement cette sagesse charnelle. On devrait dire, c'est au niveau de l'âme, du psychique. Et ces personnes-là, elles pensent à des choses humaines, naturelles. Mais vous savez que même quand on est à ce niveau-là, eh bien, on peut faire l'objet d'attaques particulières venant de la part du malin. Je vais vous donner la preuve en tirant des témoignages de l'Écriture. En tous les cas, un seul, ça suffira ce matin. Et il s'agit de Pierre. De Pierre qui, à un moment donné, a été entre les mains, je dirais, de l'Esprit de Dieu, un instrument pour faire une déclaration magnifique, une déclaration que nous utilisons souvent. Vous vous souvenez? Quand Jésus a dit « Qui suis-je? Que dit-on de moi ?» Et lui, il a répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, il a reçu une parole de la part du Seigneur. Tu es vraiment, eh bien, honoré, Pierre, parce que parler comme cela, ça ne peut être que par le Saint-Esprit. Alors, il a dû y avoir une joie terrible dans son cœur. Oh, ça n'a pas duré longtemps. À peine quelques temps après, Jésus parle de sa mort. Il parle de son humiliation, il parle de la croix. Et il dit, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. N'est-ce pas une sagesse naturelle? Il est en train de défendre, notre frère a parlé de Jésus, qui nous considère comme des amis. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Il a dit, je vous appelle ami, pas serviteur, mais ami. Et nous avons chanté ce beau cantique. Mais c'est non naturel que Pierre défende son ami fidèle et tendre et qu'il dise non, c'est pas possible, tu vas pas connaître cela. Mais là, il ignore le plan de Dieu. Il ignore le plan rédempteur de Dieu. Et ça ne peut pas être par le Saint-Esprit qu'il le dit. Alors, que lui dit le Seigneur? Il lui dit simplement ceci: arrière de moi, Satan. Quelle douche froide, hein? Tout à l'heure, c'est l'Esprit de Dieu qui te guide. Là, maintenant, c'est Satan qui t'inspire. Oh là là! Vous voyez, on ne peut pas être neutre. où on est du côté du Seigneur, où on est contre lui. C'est la raison pour laquelle, eh bien, le Seigneur a clairement exposé les faits quand il a dit « on ne peut pas servir deux maîtres à la fois ». C'est pas possible. Et Pierre, lui, il a été délivré de sa sagesse naturelle quand ? Le jour de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, il s'est levé. Et comme je l'ai déjà fait remarquer d'autres fois, il a eu, pardon de cette expression, le toupet de dire aux autres, vous avez renié le saint et le juste. Mais il avait été déjà profondément humilié. Lui, il avait été brisé. Maintenant, il était réconcilié. Maintenant, il était rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il était toujours le même homme rustre, le simple pécheur qui aurait pu dire comme Agur, je suis sans intelligence, je n'ai pas beaucoup d'éducation, je n'ai pas reçu la science des saints. C'est pas comme le roi Salomon qui a reçu quelque chose de formidable dans ce domaine de la part de Dieu, mais malheureusement il en a fait un très mauvais usage. Lui, non, mais maintenant il parle. Quoi ? Il parle la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a une grande efficacité. Quand on proclame la parole de Dieu, elle est une épée à double tranchant. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Jacques nous ramène à ceci. Laissez tomber la sagesse terrestre, naturelle, diabolique. Elle ne fait que des ravages. Elle ne cause que des divisions. Elle ne cause que des choses qui ne sont que du désordre. Laissez tomber cela. Et il dit, mais par contre, recherchez la sagesse d'en haut. Et là, je ne vais pas développer ce passage. Mais je vais vous demander à la maison, reprenez le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, où il y a toutes les béatitudes de Jésus. Car Jacques, qui est le frère de Jésus, eh bien, certainement bien instruit par son propre frère, est en train de présenter d'une manière différente tout ce que l'on trouve dans les béatitudes. Il dit la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Elle est ensuite pacifique. Vous allez trouver ce qui procure la paix. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde. Pleine de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et je vais terminer par cela. Chaque détail que je viens de citer pourrait donner l'occasion à un message différent. Mais vous avez la possibilité de méditer à la maison en repassant dans votre cœur les paroles du Seigneur Jésus, la mise en pratique de ces béatitudes qui sont tellement précieuse. Mais je voudrais vous dire ce qu'il dit en terminant. Elle est pleine de bons fruits. C'est-à-dire, elle annonce une récolte formidable. Vous savez, Jésus, il a semé dans la souffrance. Il a semé dans la douleur. Ça a été le grain de blé qui est tombé en terre. Mais juste à ce moment-là, on pourrait se poser la question, puis tant de souffrances, et puis pour quel résultat ? Finalement, combien était-il à la chambre haute ? Fidèle pour rechercher une certaine relation avec Dieu. Combien était-il ? Pas tellement, quelques centaines, pas tellement. Mais la parole de Dieu dit que à cause de son travail, du travail de son âme. Ce serviteur juste rassasira son regard d'une récolte immense. Et on peut savoir que dans le ciel, il y a des millions et des millions d'âmes qui sont entrées, qui sont la conséquence de son œuvre sur la croix. Mes frères et sœurs, si nous vivons ce que nous croyons, même si nous ne voyons pas ici, bas, toujours, les fruits immédiats, sachez que Dieu ne nous trompe pas. Et les fruits, nous les récolterons quand nous serons auprès de lui. Que Dieu vous bénisse.